L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Avec lui, nous allons analyser la situation au Niger. Nous nous pencherons en particulier sur l'activité diplomatique algérienne pour trouver une solution politique et pacifique rapide à la crise en dehors de toute intervention militaire ou politique étrangère. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Niger, qui est confronté à une crise économique et politique aggravée depuis le 26 juillet suite au renversement du président Mohamed Bazoum par la garde républicaine commandée par le général de brigade Abdourahmane Tiané, a donné un ultimatum de 48 heures à l'ambassadeur de France à Niamey pour quitter le pays. Après expiration de l'ultimatum, l'ambassadeur français est toujours en place, ce qui laisse penser que la situation risquerait de se compliquer encore plus sur fond du risque d'intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir, selon les pays membres de cette organisation, l'ordre constitutionnel. Chose que l'Algérie refuse catégoriquement, le Mali et le Burkina Faso considèrent même toute intervention militaire extérieure comme une déclaration de guerre. Pour discuter des probables évolutions de cette situation sur les plans national, régional et international, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté encore une fois avec plaisir de nous accorder cet entretien.
C'est toujours un plaisir que de m'entretenir avec vous et de passer sur vos ondes.
Tout le plaisir est pour nous, monsieur. Alors la première question, quels sont à votre avis les motifs ayant présidé à la décision des nouvelles autorités du pays du Niger d'exiger le départ de l'ambassadeur de France?
Oui, au fait, les raisons qui ont été avancées, elles sont même le contenu du communiqué du ministère des Affaires étrangères à l'égard de l'ambassadeur Sylvain Ité, à qui on a donné un délai de 48 heures. Mais c'est parce que je pense que le gouvernement de transition national a jugé utile de mettre fin aux tractations et aux velléités françaises sur le territoire nigérien et qu'ils voyaient d'un mauvais œil l'action de la France donc au Niger après le coup d'État. Et donc, cela représentait une atteinte à la sécurité nationale. D'ailleurs, la France a été le seul pays destinataire de ce communiqué, contrairement aux autres communiqués qui ont été falsifiés par la DGSE et qui ont été jusqu'à faire dire que le Niger est en train de chasser tous les représentants diplomatiques du Niger, ce qui est complètement faux et qui a été très vite démonté, et la thèse a été démontée pièce par pièce comme étant une action de fake news diligentée par Paris. Donc le principal problème aux yeux du Niger actuellement dans sa transition réside en l'acte inamical français au Niger qui essaye de faire un renversement de l'intérieur, de faire imploser le Niger.
D'accord. Alors, il y a quand même un contexte international un peu, disons, très tendu qui a précédé cette décision des nouvelles autorités nigériennes de demander à l'ambassadeur de France de carrément quitter le pays, qui est une action très, très significative sur le plan diplomatique. Alors, je rappelle que quelques jours avant cette décision, donc l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien aux avions militaires français, sur fond d'un non-alignement des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Italie sur la position de la France quant à la résolution de la crise au Niger. Alors, comment analysez-vous cette situation? Et y a-t-il un événement ou une sorte, y a un lien ou une sorte de cause à effet entre tous ces événements et qui ont un peu, disons, fait accélérer les choses dans le sens de la décision des autorités nigériennes?
En fait, dans ce que vous dites, il faut nuancer quelques éléments pour que ce soit vraiment clair.
Oui.
D'abord, l'Algérie n'a pas fermé son espace aérien cette fois-ci. L'espace aérien algérien est fermé pratiquement depuis très longtemps au survol militaire français qui rentrait dans un premier temps dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme. Mm-hmm. Mais depuis pratiquement 2019, l'État algérien a décidé
Absolument.
De fermer son espace aérien. Donc voilà.
Non, c'est juste, disons que c'est une, comme la conjoncture actuelle a fait miroiter la possibilité d'une intervention militaire française, je pense que c'est pour cette raison-là que les autorités algériennes ont encore planté le clou en disant niet à toute tentative.
Très bien, donc sur cette base-là, il faut partir sur cette base-là que l'espace aérien est déjà fermé.
D'accord.
Et que les Français voulaient une autorisation spéciale. Voilà, donc, de survol du territoire algérien qui a reçu un net catégorique. Ensuite, sur le terrain au Niger, la donne est en train de changer. Il y a un sentiment de rejet de l'autorité française et de la politique française dans la région. Et d'ailleurs, dans toute la région francophone, il n'y a que la France qui est rejetée pour dire que ce qui se passe au Niger est une forme de révolte naturelle par rapport à un vécu dont toutes leurs relations, les pays africains en ont souffert des partenariats avec la France. Et c'est sur cette base-là, je pense que donc l'ensemble des événements qui se sont passés d'abord dans la région, ensuite au Niger, avec des facteurs que nous avons déjà cités, exogènes et endogènes, ont poussé d'abord la garde républicaine à démettre le président, ensuite le ralliement de l'armée et de la population. Je pense que c'est une preuve plus que palpable, plus qu'une élection, plus qu'un référendum, pour dire que le peuple est avec son autorité. Il n'y a pas plus grande légitimité que celle qui est consacrée par le peuple actuellement. D'ailleurs, c'est le peuple qui est là, en train de faire un bouclage autour de l'ambassade de France au Niger, et c'est ce même peuple qui fait un setting devant les bases militaires françaises. Mm-hmm. Maintenant, pourquoi les Américains, par exemple, les Allemands, ne marchent pas?
Et les Italiens.
Les Américains, je crois qu'ils ont lâché les Français depuis très longtemps dans la région ouest-africaine. Ils ont compris le jeu à, j'allais dire, la politique à géométrie variable française dans la région, et que les Américains ont toujours été victimes des outputs de la politique française, c'est pourquoi ils ont décidé de ne plus octroyer à la France ce qu'on appelle la gestion de la région de l'Afrique de l'Ouest, donc la sous-traitance. Mmh. On a décidé de ne plus octroyer la sous-traitance aux Français. D'ailleurs, au Niger, après le coup d'État, c'est depuis 2 ans que le poste est vacant. Les Américains ont décidé d'envoyer un diplomate, donc un ambassadeur, qui est en la personne de l'ambassadrice qui a déjà, qui connaît très bien la région ouest africaine. C'est une question de dire que nous prenons les choses en main. Ensuite, le fait d'envoyer une ambassadrice, donc ça veut dire que nous cautionnons du moment que les intérêts américains sont sauvegardés et que cela est tout à fait rentre dans un ordre naturel des choses. Troisièmement, c'est que l'émissaire des États-Unis d'Amérique au Niger est revenu avec une impression positive du moment que la base américaine resterait au Niger et que les intérêts américains seront sauvegardés. Pourquoi vont-ils s'aligner sur une cause perdue, qui est celle de la France, qui est, j'allais dire, vomie par toute l'Afrique? Maintenant, les Allemands, eux aussi, ils ont fait la paire européenne, mais la France n'a jamais partagé le territoire africain réellement avec les Allemands. Seulement, donc tout ce qui est commun à l'Union européenne, la France en fait partie. Tout ce qui est unique à la France, elle est donc c'est un territoire fermé. Je finis par l'Algérie. L'Algérie ne veut pas.
Et l'Italie aussi. Il y a aussi l'Italie qui a émis un refus catégorique. Il y a certains, on pourrait penser que c'est une question qui est liée justement au refus algérien. Je vous laisse terminer, bien sûr. Et par rapport à tout ce qui a été conclu comme accord stratégique, notamment gazier.
C'est vrai, en ce qui concerne l'Italie. D'abord, la relation que lie l'Italie à l'Algérie l'engage à être soudée dans son action avec l'Algérie et soudée surtout par rapport à la question du droit international et à la Charte des Nations Unies. On ne peut pas se substituer au Conseil de sécurité, ni à l'ONU, ni à l'Union africaine, encore moins à l'Union européenne, pour décider de ce qui devrait se faire au Niger, qui est un pays africain et non pas européen, et que la capitale Niamey, c'est pas Paris. Ensuite, il faut retenir quelque chose de très important, c'est que l'Italie a été lâchée lors de la crise pandémique par l'Union européenne et surtout par la France.
Oui.
Et ça, les gens oublient que les Italiens se sont retrouvés seuls et ils ont jugé et juré de se venger donc de ceux qui les ont trahis. Troisièmement, dans l'affaire de Lampedusa et les flux migratoires, c'est l'Italie qui en souffre le plus et c'est Paris qui a fermé ses portes contre les lois de Schengen à l'époque de l'ancien président Sarkozy. Donc là, on est en situation de mieux comprendre la chose. Je finis donc en ajoutant que la première ou le premier ministre italien avait déclaré à deux reprises. Donc Giorgia Meloni, quand elle était d'abord en quête de pouvoir, en défendant les principes de son parti politique, que le problème de l'Afrique est c'est la France. C'est la France qui dilapide les biens des Africains et c'est elle qui les pousse à une migration massive. Ensuite, en tant que Premier ministre, elle a maintenu ce cap. Maintenant, l'Italie, elle a plus intérêt à ce qu'il y ait une stabilité au Niger, car, entre autres, les relations qu'elle peut avoir avec le Niger, avec la Libye, la Tunisie, surtout l'Algérie, sont beaucoup plus importantes qu'une position défaillante. Avec la France, qui ne donne aucune autre contrepartie. Voilà. Et j'ajoute que le projet Nigal, le transfert du gaz du Nigeria via le Niger, l'Algérie vers l'Europe, est encore un atout pour que les Italiens prennent cette position contre toute déstabilisation du Niger. Je reviens à l'Algérie. En ce qui concerne l'Algérie, il est clair que l'Algérie ne veut pas et ne permet pas qu'il y ait une intervention au Niger. Et que cette décision, elle est souveraine. D'abord, ça a créé un clivage et une guerre qui ne dit pas son nom entre Paris et Alger sur la question de l'intervention au Niger. D'ailleurs, l'Algérie a pesé de tout son poids diplomatique en envoyant son ministre des Affaires étrangères au Ghana, au Nigeria et au Bénin, sachant que ces trois pays composent l'essentiel de la CEDEAO, surtout que le Nigeria est le pays le plus puissant. Je crois que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont en une période de transition électorale, parce que c'est la période des élections municipales, régionales et même présidentielles, pousse justement les autorités à prendre avec des pincettes cet engagement au Niger, car la question du Niger s'invite dans le débat avec le panafricanisme et la montée en force pouvoir pro-français ou anti-français. Les autorités ont plus intérêt à faire profil bas. Avant cela, l'Algérie a réussi à soutirer à la CEDEAO au sein du sommet de l'UA, donc Conseil de sécurité africain, de privilégier la voie pacifique et diplomatique. Ça, c'était important et très, très important. C'était un deuxième échec à la stratégie française. Avant cela, je crois que la question principale avec les grandes puissances, je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense à la Russie, je pense à la Chine, ou même à la Grande-Bretagne, que la question a été réglée d'une façon définitive quant à les intérêts à sauvegarder le Niger d'une autre guerre qui plongerait le Niger, tout comme le Soudan actuellement et la Libye, dans une situation de chaos, et comme la position du Niger est névralgique au cœur justement de la région sahélo-saharienne, cela ne pourrait que aller à l'encontre de l'intérêt de tous, que ce soit les pays africains ou autres.
Pour rappel, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exposé les 6 axes sur lesquels était centrée la médiation d'Alger pour le règlement de la situation au Niger. Le premier est la consolidation du principe de l'illégalité des changements anticonstitutionnels. Le deuxième préconise un délai de 6 mois pour parvenir à une solution politique garantissant le retour au système constitutionnel et démocratique au Niger. Le troisième axe est lié aux arrangements politiques de sortie de crise et prévoit la participation et l'approbation de toutes les parties sans exclusion. L'axe numéro 4 concerne les garanties à toutes les parties pour assurer la durabilité de la solution politique et son acceptation par tous les acteurs de la crise et du processus de son règlement. Le cinquième est l'approche participative. Et le dernier axe est l'organisation d'une conférence internationale sur le développement au Sahel.
Je rappelle que pour la position algérienne, pour quelques-uns qui, notamment dans la presse française, qui veulent présenter ça comme, disons, une opposition inexpliquée ou quoi que ce soit, alors on pourrait rappeler d'abord que l'Algérie s'est opposée catégoriquement à l'intervention de la France et de l'OTAN en Libye qui a détruit ce pays en expliquant correctement et en disant exactement ce qui allait se passer. Et tout ce que les autorités algériennes ont dit à ce moment-là, c'est vérifié. Il y a le pays qui est dans un chaos total. Et non seulement il est dans un chaos total, il a transféré son chaos à toute la région du Sahel. Et donc, ça a impliqué une déstabilisation du Mali, en particulier dans le nord. Il y a le terrorisme. Oui, le terrorisme qui s'est encore une fois rehaussé dans la région des trois frontières et puis aller vers le Niger. Donc, en fait, on a toutes les frontières de l'Algérie sont à feu et à sang, à l'exception, donc, il est tout à fait compréhensible que l'Algérie prenne cette décision ferme parce qu'elle ne peut en aucun cas, encore une fois, permettre que ce qui reste comme frontière dans le sud, c'est-à-dire celle avec le Niger, qu'on y mette le feu. La question suivante, Monsieur Soufi, étant donné, donc maintenant d'un point de vue opérationnel, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'intervention militaire, toutes les pressions qui sont exercées sur les autorités du Niger, mais étant donné que l'Algérie et le Mali ont fermé leur espace aérien, et de manière catégorique, à toute aviation étrangère, donc dans ce cas-là, une intervention militaire française est-elle réellement possible? Par où ils vont passer ces avions? Et puis, notamment, sans l'aide militaire habituelle de l'OTAN et des États-Unis?
Au fait, c'est très, très important comme question. Alors, ces derniers temps, il y avait un arrivage d'immenses cargaisons d'armes de guerre en Côte d'Ivoire. Et tout le personnel de l'aéroport Félix Opoué-Boigné d'Abidjan a été témoin, justement, de l'atterrissage et du décollage d'aéronefs militaires français de type Transai C-160 à la base militaire du GATL, du GATL d'Abidjan. Mmh. Et donc... Le 24 août, justement, 2023, à 20 heures, heure GMT, deux avions militaires français ont atterri sur, donc avec leur cargaison, vers le 25 vendredi, voilà, le 25 à 12 heures GMT. Donc cela explique que l'action militaire française est envisagée. Et donc, je pense qu'il y a plus d'un scénario qui a été mis en place. Et on s'est vu refuser de traverser les espaces aériens de l'Algérie et du Mali, notamment après les accords du Maroc pour que ces survols puissent avoir lieu. Donc, il faudrait encore traverser la Mauritanie, le Mali. La troisième supposition, donc la deuxième supposition, c'est de voir ces avions, donc ces armements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, traversés d'une façon, j'allais dire, plutôt clandestine. Les territoires du Mali ou du Burkina Faso pour arriver ou bien du Bénin pour arriver jusqu'au Niger. Encore faut-il que le Ghana accorde lui aussi la possibilité à ses armées de traverser, sachant que le président du Ghana va venir incessamment en Algérie suite à la visite. Lui et celui du Bénin suite à la visite du ministre des Affaires étrangères et cette invitation par le président algérien. Mmh. La troisième possibilité, c'est que il y a des armées françaises stationnées au Niger, notamment la force Barkhane, qui est composée de 1100 soldats. Il y a l'aéroport qui est contrôlé jusque-là par l'armée française, l'aéroport de Niamey.
Pour rappel, selon les médias arabes, les militaires au pouvoir à Niamey ont suspendu les accords militaires liant le pays à la France et ont donné un mois à Paris pour retirer ses troupes du Niger. Dans le même temps, les médias sénégalais rapportent que les forces armées du Sénégal se préparent à se déployer au Bénin probablement en vue d'une nouvelle intervention au Niger sous les auspices de la CDAO. Le Burkina Faso serait également prêt à envoyer des troupes au Niger, mais les objectifs de Ouagadougou sont très différents. Le ministre d'État en charge de la Défense, Kassoum Koulibaly, a fait savoir que l'envoi du contingent visait à prévenir et mener au mieux la lutte contre le terrorisme.
Il y a aussi une éventualité de voir des forces débarquer du Tchad ou encore moins de la Libye, ce qui n'est pas vraiment possible du moment que les autorités libyennes et tchadiennes ont dit non. Donc, à mon avis, la France parie plus sur une implosion interne et un coup d'État contre le coup d'État. Et cela explique aussi cette guerre de fake news. Mmh. Et voilà. Donc d'abord de dire que non, ce n'est pas vrai, nous n'avons pas demandé de traverser le territoire algérien, alors que c'est faux. Officiellement, ils l'ont demandé, je peux vous le confirmer. Mmh. Et donc il y avait cinq avions. Ensuite, il y a la lettre qui était qui désignait l'ambassadeur français comme personne non grata et qu'il était qu'il avait un délai de 48 heures de quitter le territoire du Niger. Cette même lettre a été dupliquée à plus de 5 ou 6 fois au nom d'ambassadeurs d'autres pays. Et quand justement les Français, donc les Nigériens, ont nié catégoriquement cette action-là, alors les Français n'ont trouvé de mieux que de dire que en vérité ce sont les Nigériens qui avaient établi ces lettres et que ça a mis Tchani en colère et que donc ils ont fait machine arrière par rapport à cette question-là.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Soufi, techniquement parlant, dans ce bas monde, disons que tout est possible, mais pour analyser une situation, on parle de beaucoup plus de ce qui est probable. Alors, techniquement, une intervention militaire, c'est un coup de force militaire dans le Niger, est pratiquement impossible, sauf une opération que l'on destine pour engendrer un coup d'État dans un coup d'État.
Écoutez, techniquement parlant, il est impossible, vu la donne internationale, qu'il y ait une intervention, quelle qu'elle soit, de l'extérieur.
Oui.
Maintenant, ce qui est possible, c'est que les forces stationnées sur place française puissent participer, qu'il y ait quelques défaillances au sein de l'armée du Niger, qu'on fait recours aux bras armés extrêmes qui sont les terroristes, et donc entreprendre une action comme ça de l'intérieur avec justement, vous avez vu que RFI et France 24 sont interdites au Niger, au Burkina Faso, au Mali, mais la France commence à envoyer des signaux avec des diffusions clandestines, que ce soit sur les espaces Internet ou même des espaces radio. Et ça, nous avons intercepté des documents officiels français qui sont publiés pour dire que aux Nigériens que vous pouvez capter ces chaînes-là à travers ces ondes.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida. Alors, Abdelkader Soufi, Cette animosité, ou comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, à l'égard de la présence française et qui actuellement menace même les intérêts stratégiques de ce pays, qu'en est-il du poids des accords postcoloniaux avec l'Hexagone, notamment le système CFA, dont le maintien des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Sud, du Sahel et de l'Afrique centrale, dans le sous-développement et la pauvreté. Chose qui, justement, gonfle la colère, notamment des jeunes des pays africains, contre la présence française.
En fait, deux éléments clés peuvent expliquer pourquoi, justement, il y a cette guerre qui vient de se déclencher. D'abord, elle a un côté financier, ensuite, elle a un autre côté industriel. Mmh. C'est que l'industrialisation de l'Afrique commence dérange aux forces coloniales. Voir de nouveaux acteurs partenaires venir investir en Afrique et permettre aux Africains de développer le secteur industriel et les infrastructures de base, et donc permettre à l'Afrique d'émerger. Cela dérange essentiellement et énormément, notamment à la France, qui vit justement des ressources africaines et qui vit de la pauvreté africaine. Il n'y a pas, la balance, elle est ce qu'elle est. Si la balance donc des richesses tend vers l'Afrique, c'est celle de la pauvreté qui va tendre vers la France, et vice-versa. Donc, les Français ne veulent en aucun cas quitter l'Afrique et en aucun cas permettre à l'Afrique de s'épanouir. Donc d'ailleurs, quand on revient au principe de l'écho, et vous savez très bien que depuis la création de la CEDEAO, à un moment, les pays africains voulaient s'en débarrasser du franc CFA et qu'ils avaient pensé à créer une monnaie autre que celle du franc CFA. Et vous savez, à partir de ce moment-là, on a vu beaucoup de problèmes au Nigeria, notamment la montée de Boko Haram, car c'est au Nigeria que les grands accords de la CEDEAO se sont passés. Et ensuite, donc, vers la fin 2003, si ma mémoire est bonne, on a pratiquement annulé cette vision et on est revenu quand Muammar Kadhafi, qui est panafricaniste et panarabe, voulait aller vers le dinar au nord. Il a été liquidé par les Français, car le dinar dont la Banque centrale serait au Cameroun, cela sous-entend la disparition du franc CFA.
D'accord.
Encore une fois, donc...
Même la monnaie que l'UEMOA a avancée comme alternative au franc CFA, c'est-à-dire l'écho, la France est venue aussi amener son sceau dans l'affaire. Et en fait, il y a quelques réformes cosmétiques par rapport au franc CFA, mais le fond du franc CFA, c'est-à-dire la garantie de la monnaie par la France, le taux de change qui est fixé par la France par rapport à l'euro, et puis le fait que le dépôt des réserves de change, tout ça est resté. Ce qui fait que dire à beaucoup que, l'écho, cette monnaie nouvelle, soi-disant, qui est en discussion, n'est qu'un médicament périmé sous un emballage neuf.
Oui, non, voilà, très bien. Ça résume à peu près ce que je voulais dire. Donc, l'écho... À un moment donné, la France ayant peur que les comptes transforment l'écho, ce n'est que l'abréviation de l'ECOWAS en anglais, de ce qu'on appelle la CEDEAO. Et justement, donc, ayant pris les déventures pour ne pas permettre aux Africains de l'Ouest de créer justement cette monnaie qui ne mettrait plus la Banque centrale française au milieu de toutes ces transactions, a été reprise par Emmanuel Macron à partir de la Côte d'Ivoire et dire voilà, finalement, nous sommes arrivés à aller vers cet écho. Et les cet écho, il reste adossé à l'euro et non pas au dollar et non pas à l'or.
Ce qui fait que l'Afrique est actuellement, le réservoir, pas uniquement de la France, mais de toute l'Europe. C'est toute l'Europe qui profite du pillage de l'Afrique.
Mais absolument, toute l'Europe. Nous avons dit que l'Afrique, chaque année, c'est 2500 milliards de dollars qui en ressort. Et la majeure partie, c'est les pays européens. La France a, elle seule, à partir de la Banque centrale, donc est le franc CFA, extirpe l'équivalent de 300 à 500 milliards de dollars, ce qui est pratiquement presque le 1/5 de ce qui est pillé en Afrique. Quand vous allez voir les mines d'or et d'uranium et de cobalt et de terres rares un peu partout donc en Afrique, vous trouverez toujours les Français derrière. L'uranium, 30% de l'uranium qui est extrait par la société Orano ou les filiales d'Orano ex Areva représentent 70% de l'électricité française. C'est pour dire cette dépendance.
Moi, les statistiques que j'ai vues, c'est ce que le Niger assure environ 20%, le 1/5, ce qui est en quantité d'uranium importé, mais ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas rien, 20%.
De toute façon, c'est 70% de l'électricité consommée en France. Ensuite, il n'y a pas que cela. Un pays comme le Niger qui produit 7000 tonnes d'uranium pour la France et qui ne produit lui-même que 15% d'électricité et qu'il est dépendant de ce qui vient du Nigeria, alors que il est censé être le pays le plus illuminé du monde avec ce qu'il a comme matière énergétique qui est l'uranium. Donc cela explique aussi pourquoi la France exerce cette politique de garder les pays africains en dessous du seuil de la pauvreté, en dessous du savoir pour les personnes qui restent en Afrique, les doués, les surdoués. Ils sont repris vers l'Europe, vers la France, pour faire les beaux jours des administrations et de la recherche scientifique française et par conséquent interdire tout épanouissement en Afrique.
Moi, je pense que justement cette situation-là hémorragique où on voit pratiquement toutes les élites des pays africains du nord ou du sud partir pour l'Europe, c'est la plus grave situation de pillage que les pays africains subissent, plus que la question des matières premières. Parce que de toute façon, quelle que soit la richesse en matières premières, quand on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas l'ingénierie nécessaire pour utiliser les matières premières, on ne peut pas avancer.
Mais c'est clair, parce qu'en fait, une situation de fait accomplie pour les Africains, que ce soit ceux du Nord ou l'ensemble du continent africain, cette situation créée et gardée jalousement, justement, par l'empire colonial, à ne pas permettre tout type de développement qui aurait un impact sur la ressource humaine et qui ferait que cette ressource reste chez elle ou bien elle retourne chez elle. C'est pourquoi que quand vous avez fait des études et que vous avez besoin de plus de moyens pour vous exprimer, votre pays ne vous l'offre pas, parce que non pas parce qu'il ne peut pas, non pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais c'est au-delà de tout cela, c'est qu'il y a une politique qui est exercée pour que votre pays soit interdit de technologie, soit interdit de savoir, soit interdit de science, soit interdit de développement, et que même les savoirs sont restreints. On est plus dans ce qu'on appelle le savoir sec, plus que dans le savoir dynamique qui permet de mieux concevoir et de mieux entreprendre. Là, je finis que, vous savez, maintenant, heureusement qu'il y a des Africains un peu partout, que ce soit au nord, au sud, ou qui sont partis en Europe, sont revenus. Mais je dirais plus que cela, l'effet inverse ou le retour de la manivelle de la mondialisation. On voulait faire de la mondialisation un petit village pour dominer totalement les pays du tiers-monde. Or que cette mondialisation a ouvert les portes de et les couloirs de communication dans les deux sens, a permis aux Africains, là où ils sont, de se doter de nouveaux moyens technologiques, de meilleurs savoirs et de pouvoir faire justement l'effet inverse. Déjà, la montée de la conscience, la montée du panafricanisme est due à ça. Hein. C'est parce que vous pensez que s'il n'y avait pas les réseaux du net qui s'étaient ouverts, s'il n'y avait pas la globalisation, que les Africains auraient pu accéder à plus de savoir qu'ils n'en avaient auparavant. Même pour l'information, ils auraient été restés, donc ils auraient pu rester donc sourds et muets. Et ils n'auraient pas pu hausser le ton ni dire les choses comme elles sont, ni entendre ce qu'il fallait entendre. Vous voyez, moi je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu la crise ukrainienne, l'Europe, qui parle de droit de liberté de presse, a interdit à des antennes, à des chaînes telles que par exemple Sputnik ou Russia Today, de diffuser en Europe. Mais heureusement qu'ils n'ont rien pu faire, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent servir de support pour ramener la vérité là où il faut et partout à travers le monde, et qu'on ne peut en aucun cas interdire ni fermer la bouche à la vérité ou à savoir tel qu'il est.
D'accord. Alors, vous venez justement de me tendre la perche pour la suite de l'entretien. Donc, et nous allons passer un peu aux questions géopolitiques, parce qu'il y a quand même un événement qui est capital, qui s'est produit la semaine dernière en Afrique du Sud, avec le sommet des BRICS, où on a vu de nouveaux pays africains arriver dans cette organisation. Bien. Alors, en partant de ce contexte justement, donc la présence de l'Afrique sur le plan international se renforce avec les deux pays qui viennent d'arriver dans l'organisation des BRICS. Toute mesure gardée, bien sûr, hein, parce que, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De toute façon, beaucoup de choses restent à faire et c'est une dynamique qui est enclenchée, mais dont les résultats viendront à moyen et à long terme surtout. Bien. Alors, mais le contexte est très important. Alors, dans ce contexte, si l'on regarde bien la région du Sahel, le déploiement militaire qui existe, alors les États-Unis possèdent, comme vous l'avez dit déjà durant la première partie, des bases militaires, notamment des bases de drones, et ils ont actuellement 1500 soldats qui sont déployés au Niger sur les 6500 que compte toute leur présence militaire dans le continent africain. Et donc, il y a la France qui a 1100 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane. Il y a l'Italie, 300, l'Allemagne, 100.
400.
Voilà. Et alors, quand on voit cette composition et ce que nous avons évoqué avant avec la position américaine, italienne et allemande, j'ai fait exprès de rapporter ça. Alors, il y a quand même une visite qui a précédé le sommet des BRICS, qui est celle de Victoria Nuland, qui n'est pas n'importe qui. C'est une d'abord néoconservatrice, pure et dure, et c'est l'un des poids lourds de la diplomatie américaine. Donc, il s'est rendu au Niger, bien qu'elle n'a pas rencontré les autorités, les hautes autorités, c'est-à-dire le général Tchani. Le compte-rendu du département d'État de cette visite-là mentionne l'assurance pour les États-Unis de garder les bases militaires. Comment analysez-vous cette situation et comment vont s'articuler tous ces enjeux dans l'évolution de la situation? Parce que, justement, les Occidentaux ont, en plus de leur présence militaire, mais ce qui est clair, c'est que la France, elle est complètement déclassée, mais il y a en même temps cette peur d'arriver en force de la Russie et de la Chine, mais on peut rajouter encore comme l'Iran qui vient aussi d'arriver au BRICS, dans les pays africains. Est-ce que c'est une dynamique qui est favorable aux pays africains qui cherchent à s'émanciper? Comment doivent-ils manœuvrer dans ces conditions-là intelligemment pour qu'ils puissent défendre correctement leurs intérêts?
D'abord, je tiens à féliciter les pays africains, notamment l'Éthiopie et l'Égypte, qui viennent d'accéder donc au groupe BRICS. Et je suppose que le prochain sommet verra l'avènement du Nigeria, du Sénégal et de l'Algérie. Et nous savons que notamment le Nigeria et l'Algérie avaient d'eux-mêmes suspendu cette volonté d'adhérer tout de suite par rapport justement à cette question géopolitique, ce qui n'a pas été rapporté convenablement par les médias, qui a été très mal, j'allais dire, géré. On a dit que le BRICS n'a rejeté aucune demande. Bien au contraire, le BRICS est ouvert à l'ensemble des acteurs qui puissent ramener le plus et créer cette nouvelle ordre multilatérale et cet ordre qui défendra les intérêts du droit international et qui milite pour un monde juste. Donc, et c'est pourquoi je crois que on a très très mal exprimé cette volonté. C'est vrai que les enjeux en Afrique sont importants. Le groupe des BRICS a compris, d'ailleurs, si vous regardez bien la carte géopolitique, vous verrez que d'abord dans la zone Afrique-Moyen-Orient, parce qu'il s'agit de cette région, où l'ensemble des chemins et des voies du commerce et de l'économie mondiale passent par ces régions-là. Et que ces régions-là, aussi les pays qui sont des pays pionniers en matière d'énergie, en pétrole et en gaz, mais aussi sur le plan financier. Ces positions politiques de ces États qui sont donc dans une nouvelle doctrine, dans un nouveau élan beaucoup plus proche maintenant du groupe CDAO qu'il ne l'était auparavant, proche de la doctrine occidentale. Mmh. Voilà. Pour ce qui est de la visite justement de la diplomate américaine au Niger, il est tout à fait normal que les Américains cherchent à voir, à percevoir les mystères de ce qui se passe et comment sauvegarder leurs intérêts. Les Américains, ils le disent, nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'amis. Ce sont les situations qui créent les circonstances amicales ou inamicales. Le Niger aujourd'hui, il garantit les intérêts américains. Là, on est tranquille.
Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, notamment sur les pays qui viennent d'intégrer les pays des BRICS, effectivement, c'est que quand on met leur position géographique en perspective, on se rend compte que le choix et a été minutieusement calculé et brillamment calculé même, parce que d'abord il assure les ressources en énergie, de grandes ressources financières, mais plus que ça, c'est la garantie justement de toutes les voies maritimes de commerce et de transport de gaz et de pétrole. Parce que les pays, tous ces pays-là, ils sont dans les goulets d'étranglement, Bab el-Mandeb, le canal de Suez.
D'ailleurs, on peut rajouter quelque chose en ce qui concerne l'Éthiopie, la corne africaine. Vous savez que les plus grands piratages se lançaient à partir de la Somalie et que et qui a beaucoup de bases en Érythrée et bases militaires donc de multinationales dans cette région-là,
et à Djibouti
en Somalie, en Érythrée, et que avoir donc l'Éthiopie comme partenaire permet de mieux contrôler le piratage ou les actions contre l'économie mondiale, contre le trafic de l'énergie, la voie du pétrole, comme on dit, la voie de
l'Égypte. Et on rajoute aussi l'Iran et le détroit d'Ormuz. Bien. Mais moi, ce rappel, je l'ai fait justement pour vous poser une question, parce que lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, ça fait quelques semaines, il y a eu un désaccord entre la France et les États-Unis qui voulaient que l'OTAN devienne une force déployée dans l'Indo-Pacifique. Voilà, et vous voulez même créer un bureau de l'OTAN au Japon, d'ouvrir un bureau de l'OTAN au Japon, et c'est la France qui s'y est opposée. Alors, je me demandais, moi, est-ce que ce n'est pas une question, les Américains ne cherchent pas à faire pression sur la France et à tendre la main aux autres concurrents géopolitiques et géostratégiques pour lui forcer la main et lui imposer sa doctrine, sa nouvelle doctrine indo-pacifique.
Comme quoi le monde n'est pas petit que par donc les échanges de la mondialisation de l'économie, mais aussi sur les plans stratégiques. Vous savez, le rebalancement américain qu'à 60-40 pour la région Pacifique au détriment de la région Atlantique, ensuite élargie à l'océan Indien qui crée cette nouvelle zone Indo-Pacifique depuis pratiquement l'avènement de Trump depuis 2017 et qui prend de plus en plus d'importance ces derniers temps et qui fait que les Français se voient menacés dans leurs intérêts plutôt dans cette région Indo-Pacifique où ils ont beaucoup, beaucoup d'intérêt et une influence extraordinaire, à même l'Inde, hein, vous savez. Et là, je crois qu'il y a une guerre qui est prononcée, qui n'était pas visible, qui ne disait pas son nom, mais là, elle est palpable. Donc, les Français ont opposé leur niette par rapport à la présence de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique parce que ça chevauche avec leurs propres intérêts. Et en contrepartie, les Américains, vous savez, là aussi, ils sont en guerre contre les Français sur le territoire traditionnellement acquis aux Français de la région de la CEDEAO. Et cela s'explique aussi, hein. Donc, nous sommes restés sur le panafricanisme, sur dire que c'est des coups d'État, mais les Français cachaient mal la réalité des choses. C'est qu'ils sont bannis de partout à travers le monde. Ils sont bannis par les Américains, par les Européens, par les Africains. Et ça, ce n'est pas une haine contre le Français, parce qu'il faut le dire.
C'est un déclassement. C'est un déclassement qui est dû justement aux politiques français eux-mêmes.
Exactement. Ça, c'est par rapport à la politique française. Et les Africains eux-mêmes vous le diront. Nous n'avons rien contre les Français. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui sont toujours en Afrique et qui n'ont jamais été inquiétés. Mais les Africains sont contre la politique française. Les Américains se soulèvent contre la politique française en Indo-Pacifique et en Afrique. Parce qu'ils trouvent quelque part que l'échec de leur stratégie. Et plus que cela, peut-être, je dirais, même les clivages avec d'autres grandes puissances telles que la Chine et la Russie est dû justement à cette politique à géométrie variable française qui veut créer des clivages et des oppositions tant politiques que économiques entre les grandes puissances pour qu'elles puissent survivre telle une herbe sauvage qui s'implante au pied au pied d'un arbre fruitier. Voilà.
Bien, alors pour une dernière question, par rapport à ce que nous voulons de dire maintenant, notamment sur le contrôle des réserves de l'énergie, les finances qui y sont liées, et puis les voies maritimes de transport d'énergie.
Les finances et l'industrialisation de l'Afrique,
oui.
Il n'y a pas que cela.
Bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse justement par rapport juste aux ces questions-là géopolitiques, il y a des informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Si l'on se fie au dicton qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu », donc il y a des informations, c'est comme quoi les autorités nigériennes avaient interdit l'exportation de l'uranium vers la France ou envisage. Mais dans le cas où cela se vérifie ou cette décision est prise dans les jours à venir, parce qu'actuellement il n'y a rien d'officiel comme le comportent les réseaux sociaux. Comment analysez-vous cette situation rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste plus de temps, et aura-t-elle un impact réel sur la sécurité énergétique de la France? Ça ne serait pas un peu le coup de grâce?
Si le Niger arrive à mettre en exécution sa décision d'interdire l'uranium à la France, cela veut dire que EDF, qui assure 70% de l'électricité en France, ne sera pas à ce déficit, même si elle s'approvisionnerait de l'extérieur. Et cela mettrait vraiment la situation à mal, et nous risquons de voir Paris rouler à vélo et dîner à la chandelle.
Pour rappel,
dans un autre pays africain disposant de réserves d'uranium, des événements susceptibles d'affecter l'économie française se sont également produits l'autre jour. Les militaires gabonais ont annoncé l'annulation des résultats de l'élection présidentielle et la dissolution des autorités en place. Voici comment Christelle Nsamé, journaliste indépendante et témoin des événements, décrit pour Spoutnik Afrique la situation à Port-Gentil, capitale économique du Gabon.
Les résultats du scrutin de 26 août 2023 ont été annoncés, il était environ 4 heures du matin, sur les chaînes nationales. Et une demi-heure après, les antennes des chaînes nationales, parce que nous en avons deux, ont été occupées par un groupe des forces de défense et de sécurité gabonaises qui sont à leur tour venus annoncer l'annulation de ces résultats-là. Alors, sitôt cet exercice-là fait par les forces de défense et de sécurité, les Gabonais sont sortis de leur maison pour jubiler. Ça, il faut le dire. Et pour cela, ils ont donc pris d'assaut les rues pour exprimer leur joie, pour célébrer leur armée. Et ensemble, pour ce qui est notamment de la capitale économique gabonaise, les populations se sont donc dirigées vers le lieu appelé Château. Les Gabonais manifestent leur satisfaction là-bas par des cris de joie, par des chants et même par des danses sur un podium que les populations ont monté pour la Sierre France pour fêter ce jour mémorable dans l'histoire du Gabon. Certains agitent les drapeaux gabonais et il faut souligner le fait que tout cela se passe sous les regards des forces de défense et de sécurité plébiscitées par leurs compatriotes. Il faut également dire que le monde n'en finit pas ici au château. En fait, les personnes vont et viennent et dans les maisons, dans les bistrots, l'ambiance est la même. Dans les rues, on peut constater des défilés de voitures ou encore des personnes sur des bicyclettes parées de drapeaux gabonais et l'ambiance est quasiment la même dans le reste des villes du pays. Entre-temps, il faut souligner que tout ça se passe sans aucun débordement. Les populations, en fait, ont été appelées au calme et à la sérénité par le comité de transition et de la restauration des institutions. Et c'est donc une instruction qu'elles n'ont pas du mal à respecter. Et un peu plus tard dans la matinée, il faut également le souligner, le comité de transition et de la restauration des institutions a annoncé avoir déjà procédé à l'arrestation d'un groupe d'individus pour haute trahison contre les institutions de l'État, pour détournement massif des deniers publics, pour malversation financière internationale en bande organisée, pour faux et usage de faux, pour falsification de la signature du président de la République, pour corruption active et pour trafic de stupéfiants. Alors, et à ce qu'il semble, une enquête donc sera ouverte par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes selon le comité.
Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Monsieur Abdelkader Soufi, j'espère que nous avons réussi à éclairer un peu la situation dans ce pays, et dans ses multiples facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
C'est moi, merci.
C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.